Place publique.
Les primes de l'assurance maladie ne cessent d'augmenter et ça fâche tout le monde, surtout dans le Jura, qui connaîtra l'année prochaine la plus forte hausse moyenne en Suisse. Comment l'expliquer ? À qui la faute ? Place publique ouvre le débat.
Les budgets des cantons de l'arc jurassien le démontrent avec plus ou moins de gravité. Les dépenses augmentent et pas forcément les revenus. Neuchâtel en fait l'amère expérience et certaines communes aussi de la région. On se demandera si la solution passe par des regroupements, voire des fusions.
Et en dernière partie d'émission, nous reviendrons sur la sous-enchère salariale cette semaine. On apprenait qu'un chantier mandaté par le canton de Berne avait été le théâtre d'irrégularités. Nous tenterons de mesurer l'ampleur de ce phénomène qui concerne toute la Suisse.
Jusqu'à 19h, place publique.
Bonsoir Yves.
Bonsoir Gabriel, bonsoir à tous, bienvenue dans Place Publique.
Eh bien on revient d'abord sur cette annonce qui a fâché cette semaine plus d'un jurassien. Leurs primes standards d'assurance maladie augmenteront de 7,3% en moyenne l'année prochaine, soit la plus forte hausse de Suisse. A l'inverse, les Bernois voient leurs primes augmenter de 3,5% seulement, soit la hausse la moins importante sur le plan national. Et l'augmentation moyenne, comme ça vous savez tout, dans le pays est de 4,5%. Voilà pour les chiffres, il y en aurait d'autres, surtout que tout dépend de la catégorie d'assuré ou de la compagnie d'assurance.
Et pour tenter de comprendre le pourquoi de cette hausse et les moyennes pour limiter l'avenir, deux invités nous ont rejoints. Daniel Wiedmer, co-responsable des affaires politiques pour Santé Suisse, principale organisation de la branche des assureurs maladie. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous recevons également Samuel Bendahan, économiste, professeur à l'EPFL et député socialiste au Grand Conseil vaudois. Bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Alors je vous propose, avant de vous entendre, qu'on pose le débat avec ces réactions qu'on a pu entendre cette semaine sur RFJ. On va entendre brièvement Jacques Gerber, ministre jurassien de la Santé, et le directeur de l'hôpital du Jura, Christian Schneider. Pour tous deux, cette hausse des primes ne correspond pas à la hausse des coûts de la santé. C'est l'opacité des assureurs qui est en cause, qui serait en cause. On les écoute.
Nous n'arrivons pas aujourd'hui à expliquer cette différence, si ce n'est par des mécanismes liés à des réserves, mais mécanismes très opaques, peut-être pas assez transparents.
Ce n'est pas l'hôpital qui a augmenté les coûts de la santé. Je pense, dans un système un petit peu opaque avec les assurances, on doit bien voir à qui est la faute de cette augmentation de primes.
Opaque, le mot est lâché, à qui la faute ? Daniel Wiedmer, on le rappelle, vous êtes le co-responsable des affaires politiques pour Santé Suisse. Est-ce que c'est de la faute des assureurs, pas assez transparents, qui constituent des réserves exagérées ? Des accusations, on l'a entendu, qui ne sont pas tenues par monsieur et madame tout le monde au café d'en face. Ce sont des gouvernements cantonaux, des responsables d'hôpitaux qui le disent. Est-ce que vous admettez une partie de la responsabilité de ces hausses de primes ?
Oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut, pour poser le débat, il faut bien dire que ce ne sont pas les assureurs qui vont se faire soigner dans les hôpitaux ou qui vont faire des IRM ou qui consomment des médicaments. Donc, les assureurs maladie ne sont pas a priori responsables de l'augmentation des coûts du système. Ce sont nous tous qui allons chez le médecin, qui allons nous faire traiter. Ça, c'est un premier point. Je pense que ça, personne ne peut affirmer le contraire.
Donc, vous dites que la hausse des primes correspond effectivement à l'augmentation des coûts de la santé ?
Je pense que ce n'est pas seulement nous qui le disons, le Conseil fédéral et M. Bercel le dit aussi. Les primes suivent effectivement l'augmentation des coûts, mais il faut faire peut-être une petite réflexion. Les primes qui ont été annoncées, ce sont, comme vous l'avez dit très justement, les primes standards qui touchent l'assurance de base, affranchissent 300 francs pour les adultes et avec le risque accident inclus. Rappelons que la moitié de la population travaille et peut sortir le risque accident de sa prime. On est bien d'accord. Ensuite, grand nombre de la population a des franchises à options ou a des systèmes d'assurance avec des modèles alternatifs qui réduiront d'autant les primes. Donc, ce qu'il s'agit de voir, ce n'est pas, on ne peut pas multiplier la population, par exemple, jurassienne ou neuchâteloise avec cette prime de base moyenne qui a été annoncée, mais il s'agit bien d'attendre maintenant, de voir comment va être le comportement de chaque assuré pour savoir si en bout de course, le proof of the pudding, n'est-ce pas, si en bout de course, les primes qui ont été effectivement payées correspondent ou permettent de financer les prestations qui ont été consommées tous les jours, chez le médecin, consommer un médicament, etc.
Alors, le prix des médicaments est-il aussi une partie de l'explication? Est-ce que aussi, par rapport à l'offre hospitalière, les hôpitaux s'en défendent, mais est-ce que par rapport à l'offre hospitalière, il y a trop?
L'offre hospitalière, elle est fixée par les cantons, n'est-ce pas? Tout comme maintenant, là, de nouveau introduit le libre accès ou le non-libre accès justement des médecins dans le cadre du système, qui devrait effectivement permettre de limiter tant soit peu l'offre. On sait que dans les régions citadines, les spécialistes sont légion et on voit très bien que par exemple Bâle, Genève, Berne ou Lausanne, les coûts sont nettement plus importants que dans les cantons limitrophes ou dans les régions limitrophes. Ça, c'est un point. Mais les médicaments, ils coûtent à peu près, qu'est-ce qu'il faut dire, environ un quart. Un franc sur quatre des coûts de la santé sont des médicaments. Un franc sur quatre sont les prestations que chacun de nous consomme chez le médecin. Et à peu près un franc sur quatre sont les prestations que nous consommons à l'hôpital. Le reste étant les analyses, les moyens appareils, des choses plus moins importantes au niveau des postes, y compris les laboratoires, les analyses laboratoires.
Très bien. Bah, merci beaucoup déjà pour cette première explication, M. Wiedemer. J'ai envie de me retourner du coup vers Samuel Bendahan, parce que chacun de ces acteurs de la santé ont l'air un petit peu de se renvoyer la balle. Alors est-ce que tout le monde a un peu raison? Est-ce que tout le monde a un peu tort? Et puis surtout, à qui la faute selon vous?
Bon, je pense qu'il faut être clair. Quand il y a une augmentation des coûts de la santé d'un certain côté qui n'est pas nié, il y a plusieurs responsables. On ne peut pas dire que c'est juste la faute des assureurs maladie. C'est clair que les assureurs maladie ne sont pas opaques et puis en fait, empêchent le système de trouver des solutions pour régler les coûts. Parce que c'est un acteur de plus qui cherche à faire du profit dans le système des assurances. Alors, ils n'ont pas le droit, en théorie, pour le système...
Laissons finir Samuel Bendahan, vous répondrez après, oui.
Oui. Ils n'ont pas le droit de le faire sur le système de base, mais enfin, comme c'est pas opaque, on ne sait pas tellement comment ils allouent les coûts entre les systèmes, donc vous avez un acteur de plus qui n'est pas forcément dans l'intérêt, mais il faut être clair, c'est vrai ce qui a été dit avant, la question des médicaments, elle est importante, on a des prix de médicaments qui sont absurdement élevés en Suisse, la question des médecins, la droite du Parlement fédéral a permis pendant une période à des médecins de l'étranger de venir s'établir en Suisse en augmentant ainsi l'offre médicale, notamment de spécialistes. C'est une décision scandaleuse. Je tiens à dire qu'elle a été prise par des parlementaires qui sont les mêmes parlementaires qui sont à la solde des assureurs maladie, donc à droite. Ils ont choisi de laisser venir ces médecins et de ne pas poursuivre le moratoire. Et c'est ce genre de décision-là qui amène ensuite une hausse massive des coûts dans les cantons. Maintenant, ce n'est pas garanti, et c'est ça qui est important, que la correspondance entre la hausse des coûts et celle de la hausse des primes est là. Parce qu'on s'étonne toujours qu'il y a toujours une différence assez massive entre les annonces de hausse de primes d'un côté et puis la hausse réelle des coûts. Et on a vu avec l'affaire des primes payées en trop par les cantons, que certains cantons romands ont payé beaucoup plus que ce qu'elles devaient au profit des cantons alémaniques qui ont des primes plus basses. Et puis qu'en fait, quand on a demandé à être remboursé, ben, en fait, on n'a pas obtenu tout ce qu'on a payé en trop.
Daniel Wiedemer, vous admettez une forme de zone grise, hein, vous nous avez décrit
oui,
le gâteau.
Je trouve que c'est assez intéressant ce débat. Je pense qu'il faut, M. Bendahan, doit regarder un peu les statistiques de la Confédération, publiées par l'OFSP. C'est l'OFSP qui contrôle les primes, qui les approuve. La FINMA, elle en dit qu'il y a une opacité entre l'assurance de base et les assurances complémentaires. La plupart du temps, c'est des compagnies complètement différentes. Et la FINMA contrôle effectivement ces assurances complémentaires. C'est comme si on mettait vraiment en cause le fonctionnement de l'État, le fonctionnement des organisations de révision, etc. Je pense qu'une fois, il faut aussi arrêter de raconter à ce niveau-là un peu n'importe quoi.
Et quand même une précision, Daniel Wiedemer, sur le mot...
L'histoire des réserves et l'histoire justement des primes payées en trop, il y a différents facteurs. Les coûts suivent les primes. C'est clair, avec un certain retard ou une certaine avance, si les réserves n'étaient pas très clairement et complètement clairement établies durant toutes ces années... en sachant quel était le canton qui avait payé trop et quel était le canton qui n'avait pas payé assez, ce que l'Office fédéral de la santé publique avait fait, sur la base des informations des caisses, claires, on n'aurait jamais pu rembourser les prestations, les primes payées trop dans ces cantons. Donc on voit qu'il y a une absolue transparence. Sinon, ce n'était pas été possible s'il n'y avait pas eu ces calculs-là qui avaient été faits.
Et M. Bendahan, est-ce qu'on peut parler aussi que les assurés ont une part de responsabilité dans cette augmentation à toujours vouloir changer de prime en prenant la plus avantageuse, ou est-ce que l'assuré est plus ou moins victime dans cette histoire?
Non, alors ce serait vraiment hallucinant de dire que l'assuré est responsable s'il change de prime, puisque finalement le système est basé sur l'idée qu'on veut pousser les assurés à changer de prime pour payer des primes plus élevées. Donc je crois que personne n'accuse les assurés par ce comportement-là. Souvent, quand on accuse les assurés, c'est plutôt pour les accuser de surconsommer des prestations médicales. C'est plutôt ça qu'on dit quand on veut accuser les assurés. Puis moi, je tiens à dire qu'un système, d'ailleurs, comme le nôtre, qui fait qu'en réalité, on paye quand même au début la quasi-totalité, alors, une fois quand il y a la franchise, puis après encore, on paye une partie pendant un bon moment des coûts de santé, ça fait que les assurés n'ont pas intérêt à aller chez le médecin. Et je pense que s'ils font une faute, en réalité, c'est plutôt celle parfois peut-être d'aller trop tard, faire des fois les examens qu'il faut, ou les éléments de prévention qu'il faut, à cause justement des coûts de la santé extrêmement élevés, puis déjà d'être submergé par les primes d'assurance maladie, et du coup peut-être d'avoir des pathologies plus graves ensuite. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dangereux, puis d'autant plus, c'est vrai, il faut qu'on choisisse, ça c'est important, il faut d'un côté qu'on choisisse quelle qualité de soins on veut. On peut pas à la fois avoir une bonne qualité de soins qui garantit qu'on a accès rapidement aux hôpitaux, puis de l'autre côté, pas payer. Mais la manière de payer est problématique. La manière de payer est problématique. Quand vous payez avec des primes différenciées, et M. Widmer a mentionné ça au début de sa première intervention, il a dit oui, mais il y a des différents modèles d'assurance, etc. Mmh. Mais le problème d'un système comme ça, c'est que les gens qui sont bien portants, ils prennent des modèles d'assurance qui sont pas chers, parce qu'ils sont jeunes, etc. Et le jour où vous avez un problème médical, bah, vous vous retrouvez à être dans le groupe des gens ultra risqués qui doivent payer forcément les primes les plus chères parce qu'ils peuvent pas changer de modèle. Et puis finalement, vous cassez la solidarité entre les assurés. Et comme vous payez des primes qui ne sont pas en fonction du revenu, mais qui sont les mêmes par personne, qui sont des primes par tête,
moyennement
vous retrouvez,
juste, M. Benda,
messieurs, on va vous retrouver dans un instant. On va vous retrouver, Daniel Widmer, dans un instant, parce qu'on va entendre tout de suite le flash de Jérémy Pignard. Mais promis, on vous retrouve pour continuer la discussion. Et c'est pas Jérémy Pignard, il s'agit de Mathieu Schaffner.
Oui, bonsoir. La police neuchâteloise a arrêté une Bosniaque soupçonnée de crime de guerre à Neuchâtel le 20 septembre dernier. Cette femme est accusée d'avoir assassiné un garçon de 12 ans. C'était en juillet 1992 dans la région de Srebrenica. Elle était alors membre de l'armée bosniaque. Elle refuse pour l'heure d'être extradée. Une nouvelle rame a fait son apparition sur le réseau des chemins de fer du Jura aujourd'hui à Tramelan. Au total, 5 nouveaux trains ont été commandés. L'objectif des CJ est de répondre aux nouvelles normes en matière de mobilité réduite. Un lieu unique pour accueillir les migrants qui rencontrent des problèmes de santé, c'est l'État de Neuchâtel et Médecins du Monde qui l'ont inauguré aujourd'hui, la maison de santé à La Chaux-de-Fonds. L'objectif est de faciliter l'accès aux soins pour les requérants d'asile et les sans-papiers. L'agression survenue hier à Yverdon fait une seconde victime. Une femme grièvement touchée a succombé à ses blessures. Un homme est déjà mort à la suite de l'agression. L'auteur présumé a admis les faits et évoqué des problèmes de voisinage pour expliquer son geste. Un nouveau pas en faveur de l'environnement. L'Union européenne a ratifié aujourd'hui l'accord de Paris sur le climat, un texte qui vise à limiter la hausse de la température moyenne de la planète à 1,5 degré. Dernier hommage aujourd'hui rendu à Shimon Peres. De nombreux chefs d'État, dont le président américain Barack Obama, ont assisté aux funérailles de l'ancien Premier ministre israélien. Une cérémonie qui a été marquée par la poignée de main entre l'actuel Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas. L'entraîneur de l'équipe de Suisse de football, Vladimir Petkovic, a fait son choix pour les matchs qualificatifs de la Coupe du Monde 2018 de début octobre. Il a décidé de se passer des services de Gökhan İnler. Il a en revanche choisi de miser sur un retour de Sherdan Shaqiri et de Valentin Stocker. Et puis côté météo, quelques rayons de soleil pourraient encore éclaircir le ciel demain matin, mais les nuages devraient rapidement reprendre le dessus. Des averses pourraient aussi se manifester. Le mercure, lui, ne devrait pas dépasser les 17 degrés.
Place publique.
Et dans Place Publique, on revient sur la communication des hausses de primes d'assurance maladie. C'était cette semaine avec vous, notamment Daniel Widmer, co-responsable des affaires politiques pour Santé Suisse, hein, la principale organisation de la branche des assureurs maladie. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout dans ce phénomène des hausses de primes un peu plus fortes en Suisse romande qu'ailleurs, un phénomène assura ou groupe mutuel, enfin ces assurances qui proposent des primes très basses ou plus basses que la moyenne sur lesquelles se précipitent les assurés, et après il y a des effets évidemment de rattrapage.
Il est clair. Si vous voulez, juste encore une, une petite réponse, une petite rectification. Effectivement, le système connaît une prime par tête, hein, notre système suisse, mais il y a un correctif qui sont d'une part la réduction de pays prime, c'est 4 milliards qui sont payés par les impôts, donc par le contribuable. Et puis, n'oublions pas, et M. Benda, on le sait aussi, il y a 55% des frais hospitaliers qui sont aussi payés par les cantons, c'est-à-dire par les pouvoirs publics ou les impôts, et c'est toujours 8,5 milliards. Donc, on arrive à pratiquement 13 milliards sur les 38 milliards que coûtent, qui sont réduits directs, qui sont payés sur la base des capacités fiscales des gens, et non pas seulement pour une prime par tête. Donc, on a quand même un correctif à ce niveau-là, juste pour la correction du principe. Maintenant, il est clair, notamment dans le canton de Neuchâtel et le canton du Jura, Assura et le groupe Mutuel sont des gros acteurs. Et ils ont un gros portefeuille dans ces deux cantons. Et il est évident que s'ils augmentent les primes, cette augmentation se traduit pour une prime moyenne qui sera plus élevée dans ce canton par rapport à d'autres acteurs qui ont peut-être une prime qui a moins augmenté. Ça, c'est juste. Mais encore un dernier point. On a juste abordé un petit peu la question des réserves. Je voulais juste dire encore une chose. Les coûts suivent, les primes suivent les coûts. En 2014, l'ensemble des assureurs avaient des revenus, ou pouvaient enregistrer des revenus sur titres, sur les placements, de l'équivalent 740 millions de francs. C'est un peu plus de 2 points de prime. L'année passée, en 2015, ce n'était plus que 154 millions. Donc on a perdu 600 millions de francs de placement. Et c'est notamment les 600 millions de pertes qui a eu lieu l'année passée dans le système de santé de la Lamal en Suisse. Et le Conseil fédéral, respectivement M. Berset et ses offices, ont demandé qu'une partie de cette réserve devait être reconstituée maintenant avec les prix.
Très bien, merci beaucoup M. Wiedmer. Le temps avance, hein, il va falloir maintenant se tourner pour une dernière question chez vous, Samuel Bendaan. Les Suisses, dans leur majorité, surtout en Suisse allemande, ne veulent pas de cette caisse unique et vous, on sait que vous y êtes favorable. Alors, à quelles conditions le système actuel que nous avons déjà peut-il fonctionner? Ou est-ce qu'on va simplement avancer un jour, peut-être dans 20 ans, à payer 2000 francs de prime maladie?
Bon, moi, je pense que c'est évident que le système actuel, un jour, il cédera, parce que je crois que chaque année, les gens vont être de plus en plus énervés. Et chaque fois qu'on votera sur des questions proches de la question de la caisse unique, on fera des meilleurs scores. Et puis, au final, la raison l'emportera, parce que les gens ne vont pas accepter de continuer dans cette opacité complète. C'est pas seulement moi qui le dis, c'est les ministres cantonaux des Finances qui disent qu'ils comprennent pas et qu'on leur dit pas comment se passe cela. Moi, je trouve que, au bout d'un moment, le citoyen va dire, mais c'est pas acceptable que des montants pareils sont dépensés comme dépenses obligatoires et qu'on n'a pas un contrôle détaillé de comment ça se passe dans le secteur de l'État, comme c'est dans le reste de le secteur de l'État. Par contre, pour vous dire, est-ce qu'on va évoluer, est-ce qu'on peut évoluer dans le sens, moi je pense que vous avez raison que beaucoup de systèmes émaniques sont encore hostiles aujourd'hui à l'idée des caisses uniques. Peut-être que la solution, elle est dans celle qui est un peu avancée par certains cantons romands. Peut-être que dans quelques années, on pourrait imaginer que certains cantons mettent en place, bien sûr, il faudrait l'accord au niveau fédéral, mais peut-être que ce sera plus facile de faire une initiative là-dessus, mettre en place au niveau des cantons des caisses uniques cantonales ou intercantonales avec les cantons qui le souhaitent, et puis qu'on démontre à travers ça qu'on arrive à améliorer le système. Quand on aura fait la preuve par l'acte, et ben peut-être que les cantons suisses alémaniques nous suivront.
Très rapidement, Daniel Wiedmer, des aménagements peut-être qui pourraient faire que le système évolue.
Oui, est-ce qu'avec une caisse unique, on arrive à réduire les coûts? Les coûts sont générés par notre consommation, par les médecins, par les hôpitaux, par les pharmacies, comme on dit. C'est pas une caisse unique qui va changer cet élément, pas pour un franc. Il y a peut-être le système de financement du système qui peut changer, ça oui. Mais je ne crois absolument pas qu'une caisse unique, et encore moins une caisse cantonale, parce que là vous allez priver les gens du libre choix d'aller se faire traiter en Suisse, qui est une excellente chose, et qui est aussi confirmée par l'ensemble des médecins. Nous avons un système qui permet à chacun de nous d'avoir les meilleurs soins, sans tenir compte, effectivement...
Mais vous rigolez, c'est les assureurs qui combattent la liberté de choisir les soins.
Mais non, absolument pas. Absolument pas.
Évidemment, vous voulez contracter uniquement
une révision de la loi.
C'est peut-être au moment où ça allait démarrer vraiment. Je suis désolé, messieurs, je suis obligé de baisser un petit peu le son parce qu'on arrive réellement au bout de notre timing. Et malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin. Mais on rappelle que les caisses maladies ont désormais jusqu'au 31 octobre pour annoncer les nouvelles primes aux assurés. Voilà. Ces derniers auront ensuite jusqu'au 30 novembre pour éventuellement résilier leur contrat et changer de caisse, comme le permet la législation.
Merci Daniel Wiedmer, merci Samuel Bendaan. Évidemment que le débat n'est pas clos. Merci de l'avoir poursuivi sur Place Publique et bonne soirée à vous.
Bonne soirée, au revoir.
Place Publique.
Et si nos communes et nos cantons ne correspondaient plus à la réalité de notre quotidien, faut-il regrouper les forces pour mieux faire face à la complexité croissante des enjeux, à l'augmentation des coûts? Une question qui se pose dans l'arc jurassien et surtout dans le canton de Neuchâtel, en proie à une crise budgétaire qui s'enlise. On vous propose d'écouter plusieurs extraits d'un grand débat organisé hier par RTN et l'Express. C'était à La Chaux-de-Fonds.
Et bien, parmi les invités, le président du gouvernement de Balleville, Guy Morin, le conseiller d'État neuchâtelois, Alain Ribaud, mais aussi le député de La Chaux-de-Fonds, Daniel Tigler, et enfin le professeur d'économie territoriale à l'Université de Neuchâtel, Olivier Crevoisier. Ce dernier insiste sur l'importance pour les cantons de l'arc jurassien de ne pas se contenter d'être des régions périphériques.
Quand on parle de questions de centre-périphérie, pour moi, ça résonne. Il y a des aspects spatiaux, bien sûr, et il y a aussi des aspects économiques. Si on regarde ce qui s'est passé depuis une quarantaine d'années, Neuchâtel était un canton qu'on pourrait qualifier de central sur le plan économique. C'était un canton avec une industrie prospère. Depuis, on a eu un certain nombre de problèmes. Les régions productives, traditionnellement productives, eh bien, ces régions, aujourd'hui, se retrouvent être les plus pauvres dans chacun des pays d'Europe. C'est celles qui, finalement, sont dans les queues de classement en termes de revenus, par exemple. Hein? Qu'est-ce qu'on a vu se développer depuis? Eh bien, c'est une économie tout à fait différente. C'est une économie de captation des flux, d'une économie de services tertiaires, avec la capacité, par exemple, de centres comme Lausanne, Berne, Zurich, à capter des flux de populations qui sont autour et puis qui vont venir dans la ville pour soit pour y habiter, soit pour y consommer, soit pour participer à des événements de loisirs, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie présentielle, résidentielle, et c'est dans ces domaines-là que se sont développés quantité d'emplois. Hein. Et le problème du canton de Neuchâtel, c'est qu'il est resté complètement à l'écart de toute cette économie présentielle. Il est resté un peu figé sur son économie industrielle, productive. Et bien sûr, du point de vue géographique, si on revient sur ce qui nous occupe aujourd'hui, cette question haut et bas, eh bien on voit là qu'on a une inégalité, il y a eu un basculement. Autant La Chaux-de-Fonds-le-Locle était des villes dynamiques et, je dirais, au centre de leur marché dans les années 60, autant il y a eu un basculement. Et dorénavant, c'est plutôt le bas qui peut participer à cette grande ville, ce réseau des villes de Suisse occidentale, hein, entre lesquelles circulent les personnes, Neuchâtel le bas en tire un certain nombre d'avantages. Même si, encore une fois, l'ensemble du canton de Neuchâtel et l'ensemble de l'arc jurassien sont devenus périphériques dans ce système économique qu'on connaît aujourd'hui.
Guy Morin, par rapport à cette notion de centre de périphérie.
Je crois que ce que a dit M. Crevoisier, on le vit tous les jours à Bâle, l'économie se concentre au centre. La ville de Bâle a créé en 10 ans, l'économie de la ville de Bâle a créé en 10 ans, 20 000 emplois. 20 000 emplois. En périphérie, les emplois n'ont pas augmenté au même rythme. Je crois qu'il y a à peu près 5 000 emplois de plus dans le canton de Bâle-Campagne. Chez nous, c'est 20 000 en 10 ans. Et la population a seulement augmenté de 10 000. Nous avons sur une population de 190 000 personnes, 150 000 emplois à plein temps. Hein? Ça, c'est des emplois pour une population d'environ 400 000 habitants. Ils sont au centre. Et ça, c'est la réalité économique. Et l'économie se concentre dans la métropole de Zurich, que ce soit la métropole arc-lémanique entre Genève et Lausanne, ou la région de Bâle. Et ça, c'est une réalité économique. Et la politique n'a pas beaucoup d'influence là-dessus. Parce que c'est des clusters économiques qui se créent. Et puis une entreprise qui vient, elle vient là où il y a d'autres entreprises, où il y a d'autres notions, il y a d'autres emplois spécialisés, etc. Où il y a les universités, où il y a la culture, il y a les musées, il y a le théâtre. C'est là que l'économie se... Et je crois que ce développement, eh bien, il faut que les institutions politiques suivent aussi ce développement.
C'est précisément en raison de l'absence d'un centre fort que l'arc jurassien peine à se développer aussi vite que d'autres agglomérations alentour. On retrouve le professeur d'économie territoriale à l'Université de Neuchâtel, Olivier Crevoisier.
C'est bien un peu le drame des 40 dernières années de toute cette région de l'arc jurassien, c'est le fait de ne pas avoir une ville au centre. Hein? On est dans une géographie polycentrique et on est quelque part, quand on est dans une situation comme celle-là et qu'on passe à une économie tertiaire de services, eh bien on a des difficultés. Parce que le service, c'est la ville. Hein, généralement, les services vont se localiser dans les villes, c'est comme ça. Le résultat de ce polycentrisme, qui a hérité notre histoire industrielle, eh bien, c'est qu'on n'a pas cette ville-centre et on se fait aspirer par les pôles environnants, dont Bâle, bien sûr, pour le Jura, entre autres, nous vers Lausanne, Berne, etc. Et toute cette région est un peu éclatée. Et la question, c'est bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte comme celui-là? Et je crois que la solution, elle est bien là. Soit on se tire dans les pattes les uns les autres, et puis on va se faire aspirer par ces grands centres. Hein. Monsieur Morin a bien rappelé que les emplois sont concentrés là. On a beaucoup moins dès qu'on sort de la ville. D'accord? Donc, de manière générale, c'est quand même comme ça que ça se passe. Et l'autre solution, elle consiste à dire, eh bien, il faut absolument qu'on s'entende. Et puis qu'on ait une stratégie commune, et puis qu'on collabore non seulement à l'intérieur du canton de Neuchâtel, ce qui est déjà, qui me semble indispensable, mais aussi, et j'aimerais le souligner, avec les autres régions de l'arc jurassien qui ont les mêmes problèmes, qui vivent le même polycentrisme, et qui vivent les mêmes attractions par les grands pôles environnants. Si on parvenait à s'entendre sur un certain nombre de dossiers, les négocier déjà au préalable ensemble, après on serait évidemment beaucoup plus fort pour aller discuter, et beaucoup plus crédible pour aller discuter en matière hospitalière, en matière d'éducation supérieure, en matière culturelle, avec ces grands centres qui nous entourent et dont on a besoin pour fournir un certain nombre de prestations.
Mais pour tirer tous à la même corde, souvent il faut attendre d'y être forcé. C'est en tout cas ce que regrette Olivier Crevoisier, notamment en ce qui concerne les fusions de communes.
Malheureusement, je dois constater que ce qu'on a pu vivre ces 20 dernières années dans le canton de Neuchâtel, c'est la chose suivante, c'est que chaque fois qu'il y a une certaine prospérité qui revient, tout le monde va dans son coin et puis dit « Ah ben je suis finalement très bien tout seul ». Et puis, quand on commence à repenser aux questions de fusion et autres, eh bien, c'est quand on est dans la crise, et puis qu'on est au pied du mur, et qu'on n'a plus le choix de faire autrement. Vous pouvez regarder l'historique des projets de fusion, vous pourrez voir que, effectivement, ça a été régulièrement le cas. Dès que la prospérité revient, on les remet dans le tiroir. On en arriverait presque à souhaiter, ça n'est pas mon cas, que la crise dure suffisamment longtemps pour qu'on puisse enfin mener à terme les réformes institutionnelles. C'est une boutade, excusez-moi.
C'est quoi qui, peut-être dans 10 ans ou 15 ans, donnera envie aux habitants du Locle et de la Chaux-de-Fonds de fusionner?
Oh, je crains devoir donner raison à M. Crevoisier. Hein. Je crains aussi qu'un rapprochement, pas le rapprochement puisqu'il a lieu déjà à travers toute une série de collaborations, mais qu'une fusion, le Locle, la Chaux-de-Fonds, le jour où tous les deux se trouvent au fond du trou. Malheureusement, hein, c'est le constat que souvent les fusions se font sur une base d'intérêts économiques.
Ce débat s'est terminé avec les questions du public. On vous propose d'en écouter une où il est fait d'abord mention de la difficulté de créer l'unité au sein d'un canton s'il perdure des sentiments d'inégalité entre les régions. Et vous l'entendrez dans la deuxième partie de la question. Il est fait mention du projet de supprimer les districts électoraux pour l'élection au Grand Conseil neuchâtelois, ce qui risque de mettre en péril le système politique de Milice.
Rémi Cozardé, c'est un citoyen non universitaire. J'aimerais simplement dire ceci. Ce qui nuit à la cohésion cantonale, c'est, à mon avis, l'attitude du Conseil d'État qui ne respecte pas la Constitution neuchâteloise. L'article 5 dit que le Conseil d'État doit veiller à l'équilibre entre les régions, ce qui n'est pas le cas. Je vous cite un seul exemple. En 1985, j'étais conseiller général au Locle, j'avais demandé une étude sur les flux financiers entre le haut et le bas. L'université de Châtel l'a fait, il y avait 45 millions qu'on donnait. Cette étude a été réactualisée il y a quelques années, c'est plus 45 millions, c'est 60 millions. Comment vous voulez que le haut du canton qui donne 60 millions de plus que ce qu'il reçoit, comment vous voulez qu'il y ait un sentiment d'appartenance au canton? Et puis, juste encore un mot, puisque j'ai la parole, pour la circonscription unique. Vous avez tous discuté en tant que technocrate, mais moi j'essaye de discuter en tant qu'humain. Alors dites-moi, une fois qu'on aura la circonscription unique, dites-moi comment faudra faire pour qu'un ouvrier, une infirmière puisse être élu. Il n'y aura plus que des directeurs, des enseignants et des avocats. Voilà, c'est ça votre circonscription unique. J'aimerais que de temps en temps le Conseil d'État raisonne en humain et non pas en technocrate.
Deux questions qui concluent à merveille cette soirée de grand débat. Il y a les flux financiers qui font que quand on donne et qu'on reçoit moins, on a de la peine à s'identifier aux toutes. Et il y a aussi ce risque que pointe monsieur de si on regroupe nos forces, on crée des entités trop grandes, eh bien on oublie une certaine catégorie de population qui aurait de la peine à se hisser au niveau qu'on attendra d'elle.
Oh, je ne vais pas entrer sur le ton de la polémique hein, qui est lancée. Je dirais juste à M. Cossandet-Oudier qu'il aille voir les élus tessinois. Hein. Il n'y a pas que des avocats et pourtant il y a une circonscription unique. Je ne crois pas que le risque soit vraiment terrible. Et je dirais qu'il existe déjà aujourd'hui. Hein. On n'a pas toutes les représentativités des diverses professions qui peuvent exister de très loin. Pas. Alors je ne suis vraiment pas sûr que ce risque se concrétise et ce n'est pas du tout un risque qu'on craint. Donc là, je ne crois pas. Après, sur les flux, c'est vrai, les études ont démontré que l'argent de l'État se déverse davantage sur le littoral que sur le haut du canton et qu'on doit en tenir compte. Après, c'est difficile de le dire comme ça, mais si, parce que ça peut être pris pour un argument électoral, mais si tous les quatre ans on change des conseillers d'État, c'est un petit peu difficile quand même de tenir compte sur des éléments qui peuvent se changer ou évoluer sur long terme, qu'on puisse changer ça. Là, on a aujourd'hui un bel objet qui va être débattu au mois de novembre au Grand Conseil, qui est un investissement, je dis bien un investissement, pas une dépense, qui est le nouvel hôtel judiciaire. C'est une manière aussi de reconnaître la valeur non seulement symbolique du troisième pouvoir qui vient à la Chaux-de-Fonds, mais d'un investissement important qui vient sur la Chaux-de-Fonds.
Place publique.
Le chantier cantonal de l'Euvresse a relancé la polémique du travail au noir dans la région. Plusieurs irrégularités ont été signalées par la commission paritaire du Jura bernois cette semaine. Aujourd'hui, l'affaire rebondit au Grand Conseil avec une interpellation signée par 5 députés du Jura bernois. Les élus socialistes autonomes et UDC estiment que le canton n'a pas réagi avec la fermeté que l'on attend d'un mandataire responsable et que les réponses apportées ne laissent transparaître aucune volonté de lutter contre les entreprises tricheuses.
Pour en parler ce soir dans Place Publique, nous retrouvons Jean-Claude Baudouin, le président de l'Union Neuchâteloise des Arts et Métiers. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Si on vous a invité, c'est que cette thématique vous concerne de près. Vous êtes monté aux barricades récemment pour une affaire similaire qui concernait une entreprise neuchâteloise œuvrant dans le canton de Vaud. Est-ce que ça vous choque qu'on trouve des irrégularités sur un chantier mandaté par un canton?
Alors ça ne me choque plus du tout. C'est même entré dans les mœurs. Je le regrette fortement.
Non, vous êtes là pour ça. Laissez-vous aller, monsieur Baudouin.
Non, mais je me laisse aller, monsieur. D'ailleurs, je ne suis pas en train de me défouler. Je parle de la réalité et du constat que nous faisons au quotidien sur les chantiers, qu'ils soient jurassiens, jurassiens bernois, neuchâtelois, vaudois, genevois. Aujourd'hui, le consommateur a changé, le client a changé, l'État, les communes changent. Ce que recherchent toutes ces entités, ce sont les meilleurs prix. Et quand on recherche les meilleurs prix, on ne recherche pas la meilleure qualité. Et donc, il est tout à fait logique, dans une mauvaise logique économique, que quand on n'a que le prix, on n'ait aucune qualité et un peu de marché tronqué.
Vous portez... Vous portez l'affaire au Grand Conseil, hein, vous êtes suivi par des députés autour d'un postulat, vous demandez au canton d'en faire plus pour permettre le blocage par la force des travaux des entreprises fautives. Pourquoi arrêter les chantiers, c'est la solution?
Parce que c'est la seule solution pour que les conventions collectives soient respectées, que les commissions paritaires qui ont le devoir de faire respecter les conventions collectives sur le terrain soient entendues. C'est notre seule manière de réagir. Nous sommes dans un pays bien sûr libéral, et je le salue, mais libéral ne veut pas dire que tout est permis. Nous avons aujourd'hui sur les chantiers 80 à 85% d'entreprises qui respectent les dispositions conventionnelles, mais nous avons 15% de tricheurs, de bandits, de requins, j'ai pas assez de mots pour dénoncer tout ça, qui se moquent éperdument des lois suisses, cantonales, et qui décrochent des marchés via Internet, via de la sous-traitance organisée. C'est épouvantable, voilà, je le dis. Et je crois qu'il faut que les gouvernements de notre pays, les 26 gouvernements de notre pays, signent une fois enfin un papier où on donne des pouvoirs aux commissions paritaires qui sont chargées de faire la police des chantiers. C'est aussi simple que ça.
Tout à fait. On avait entendu d'ailleurs par rapport à cette histoire Flavio Torti qui lui s'était vraiment insurgé par rapport à ce travail au noir et il avait beaucoup insisté que c'était les petites entreprises qui veulent respecter les règles qui sont pénalisées. Alors est-ce qu'elles sont pénalisées par la réalité du marché et surtout est-ce qu'elles sont déjà désavantagées au moment des appels d'offres?
Mais elles sont désavantagées parce que dans les appels d'offres publics Ce que recherchent les entités publiques, c'est l'offre économiquement la plus avantageuse. Alors, quand vous donnez 5 points sur 5 à tous les critères d'adjudication sur la sécurité, sur la formation professionnelle, sur l'organisation du chantier, ben, tout le monde est match nul. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le prix. Mais le prix, derrière le prix, il y a une qualité. Et la qualité, aujourd'hui, elle correspond au prix.
Il n'y a pas, moyen d'agir en amont. Vous parlez d'arrêter les chantiers une fois que les contrôleurs constatent des problèmes. Pourquoi ne pas vérifier mieux avant, au moment de soumettre un chantier?
Ben, écoutez, c'est une question de législation. Comment vous voulez qu'on contrôle mieux avant si nous n'avons pas la qualité d'agent judiciaire pour agir, si nous n'avons aucune mesure de rétorsion à brandir? Ben, nous faisons notre boulot que sur les chantiers. Donc, nous intervenons là où le mal est à peu près déjà fait, mais au moins, nous intervenons et nous essayons d'arrêter ceux qui trichent et qui ne respectent pas les lois et les dispositions conventionnelles de ce pays.
Monsieur Baudouin, j'aurais presque envie qu'on brise un certain silence et qu'on parle maintenant peut-être de certains chiffres d'argent. Est-ce que vous savez ce que ça représente pour une entreprise qui engage un ouvrier non déclaré? Ce que ça représente comme gain pour une entreprise en termes de pourcentage, par exemple, par rapport à un employé régulier?
Bah, écoutez, c'est toujours délicat de faire des pourcentages, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour décrocher un marché, on est prêt à brader la qualité, la main-d'œuvre, le prix des machines, le prix de l'inventaire, le prix de l'horaire de travail. On est prêt à brader tout ça pour décrocher le marché.
Vous parlez d'un fléau en voie de développement. Ouais, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un fléau en voie de développement en chiffres? Ça a augmenté de manière très sévère ces derniers temps?
Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a 10 à 15% du marché du gros œuvre, c'est celui que je connais le mieux, 10 à 15% du marché du gros œuvre qui n'est pas régulier. Et qui est, pour ma part, irrégulier. Et ajoutons à cela la loi sur les travailleurs détachés, qui fait partie des mesures d'accompagnement du Conseil fédéral pour les accords bilatéraux. Tout ça, c'est extraordinaire, le mécanisme qu'on a fait pour faire avaler la pastille à tout le monde. Mais sur le terrain, comment on peut expliquer aux gens qu'en 20 ans, le marché, il est changé complètement? Comment on peut expliquer aujourd'hui que pour poser une cuisine dans le fin fond du Val de Travers, eh ben, le cuisiniste qui vient, il vient de Sicile? Comment on peut expliquer le marché à des gens normaux qui devraient conduire des entreprises, offrir des emplois, favoriser la formation professionnelle, encourager la sécurité au travail, prévenir les risques? Mais on se moque de qui? Ben voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui du marché. C'est qu'on achète sur Internet des prestations qui sont suivies effectivement de déplacements, mais personne ne contrôle plus rien.
Merci Jean-Claude Baudouin.
Que c'est difficile.
Merci de nous avoir dépeint ce tableau, même s'il est plutôt sombre. On espère que les mesures qui sont en cours d'étude vont porter leurs fruits. On vous souhaite une bonne suite de soirée.
À bientôt. Merci beaucoup.
Et c'est tout pour Place Publique. Vous souhaitez retrouver l'intégralité de cette émission? Eh bien, c'est possible, bien entendu, sur nos sites rjb-rfj.ch.
On se retrouve la semaine prochaine. Excellent week-end. Au revoir.
Place Publique.